avec crainte et tremblement. Bonjour à chacune, à chacun, et je vous invite à prier. Oui, va, merci, je vais parler plus fort. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ta venue dans ce monde, ta venue dans nos cœurs. Nous voulons te prier pour chacun d'entre nous, que nous puissions continuer à entendre ta voix jour après jour, sur le chemin que tu as préparé pour nous, Seigneur, afin que nous le fassions les actions, que nous les pratiquions, celles que tu attends de nous. Mais nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole aussi, Seigneur. Loué sois-tu. Amen. J'ai l'impression que tout a été dit dans cette première partie, mais ça ne fait rien. Les bonnes choses, nous pouvons les répéter. Je vous invite à lire avec moi dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 4, les cinq premiers versets. Je lis dans la seconde révisée. « Je t'adjure devant Dieu, » c'est Paul qui parle à Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Annonce la bonne nouvelle. Assure pleinement ton ministère. Beaucoup d'impératifs dans ces quelques versets. J'en ai compté 9. Oh non, ce texte ne me concerne pas. Je suis pas théologien, je suis pas pasteur, je suis pas Timothée. C'est quand même vrai que si on relit Matthieu 28, 19-20, quand Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Effectivement, peut-être que ça nous concerne. Et puis, je lisais hier ou avant-hier dans le psaume 96, je vous dis juste les versets 2 et 3. Chantez pour le Seigneur, bénissez son nom, annoncez jour après jour la bonne nouvelle de son salut. Dites parmi les nations sa gloire, racontez parmi tous les peuples ses faits étonnants, ses actes étonnants. Bon, et puis, d'accord, je veux bien proclamer, mais proclamer quoi, précisément? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je l'applique? Et dans quel cadre je vais l'appliquer? Et puis, pourquoi le faire? Et puis, encore, comment le faire? Moi, je ne suis qu'un individu pécheur, limité, ne me sens pas capable de faire tout ça. Et pourtant, ce sont des impératifs. C'est vrai aussi qu'il me promet sa présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ah, ça c'est une sacrée aide, parce que moi je ne peux pas. Alors, que proclamer ? Et dire que proclamer, c'est aussi dire que ne pas proclamer. Et je vous propose dans que proclamer, qu'est-ce que nous avons à proclamer ? Je suis allé simplement sur le site de notre union d'église, une petite introduction avant une confession de foi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de la lire très souvent, donc je vais la lire. Alors, une petite introduction qui dit sur le site de l'Union des Églises Libres, « Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, fondement de notre doctrine, toujours pertinente. Elle est l'autorité dans nos vies, encore aujourd'hui. Nous croyons que la foi est plus qu'une doctrine, c'est aussi une relation personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus, le Fils éternel de Dieu, a été fait homme pour réconcilier l'humanité avec Dieu. » Et ainsi donner la vie aux hommes, une vie qui est un sens et qui dure éternellement. Voilà la bonne nouvelle que nous proclamons. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons que Jésus communique cette vie nouvelle par son Esprit. Celui-ci habite les croyants, les intègre et les rend participants dans l'Église. Expression locale mais réelle de cette famille spirituelle, où nous sommes tous frères et sœurs, sans distinction. Et je vous propose de vous lire, ça fait une page, mais notre confession de foi. Réfléchissez, depuis 1974 que je me suis tourné vers le Seigneur, donc ça fait 52 ans. En lisant cette confession de foi, j'ai rien à ajouter, rien à retrancher, tout est dit. Donc quand Paul nous demande de proclamer sa parole, peut-être qu'on a largement de quoi proclamer. Et que proclamer ? Dieu, après avoir parlé au peuple d'Israël par ses prophètes, s'est révélé parfaitement en son Fils Jésus-Christ. La Bible est l'expression infaillible de cette révélation. Fondée sur cette écriture sainte, en communion avec l'Église universelle et en particulier avec les Églises de la Réforme, nous déclarons notre foi en ces termes. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, béni éternellement. Il a créé le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles. Il a fait l'homme à son image. L'homme s'est révolté contre son Dieu en courant ainsi sa colère. Dès lors, captive du mensonge, incapable de servir son Créateur, l'humanité est livrée à la perdition. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas abandonné à la mort. Il a envoyé son Fils dans le monde. Nous croyons en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, médiateur d'une alliance nouvelle, par laquelle la vérité et la vie sont offertes aux hommes. Il a donné sa vie en sacrifice une fois pour toutes, sur la croix, livré pour nos fautes. Il est ressuscité pour notre justification. Il est les prémices de notre propre résurrection. Élevé à la droite du Père, il est l'unique voie de salut. Nous croyons en l'Esprit Saint qui communique la vérité et la vie au Fils et à ceux que le Père appelle dans sa miséricorde et sauve par sa grâce. Unis par l'Esprit au Christ ressuscité, nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance, justifiés gratuitement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. L'Église est formée de tous ceux, toutes celles que le Christ a réconciliés avec Dieu. Habitée par l'Esprit, elle est le temple de Dieu édifié par le Christ. Elle est visible localement, dans les communautés qui, nous le croyons, doivent rassembler ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Après avoir répondu personnellement à l'appel de Dieu, ils s'appliquent à servir ensemble, conduits par l'Esprit du Christ et soumis à sa parole. L'amour de Dieu étant la source et le fondement de notre salut, nous voulons aimer nos frères et sœurs en Christ et proclamer l'Évangile sans lequel il n'y a pas de salut. Nous voulons aussi aimer notre prochain en travaillant pour la paix et la justice jusqu'à la venue de notre Seigneur. Car il reviendra pour juger toute créature et établir son règne. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Telle est notre espérance. Voilà la confession de foi de nos églises. Je crois qu'on peut effectivement adhérer donc à la question « Que proclamer ?» que je me posais tout à l'heure. Je pense que nous avons les réponses. Et à côté de « Que proclamer ?», mais derrière, il y a aussi peut-être « Que ne pas proclamer ?» Que ne pas proclamer, la liste est infinie. La manière dont je m'habille, la longueur de mes cheveux, voir si j'ai un piercing, des tatouages, savoir s'il faut que je me vaccine contre le Covid ou pas, savoir le moyen de contraception que je dois utiliser dans mon couple, les émissions que je dois regarder, écouter, les livres que je dois lire, la musique que je dois entendre, écouter. Tout ça, ce sont mes petites vérités qui, pour moi, ont un sens, mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de proclamer. Et dans quel cadre le proclamer ? Mais le grec dit à temps et à contre-temps. Alors, le mot grec qui dit temps, je ne veux pas rentrer, mais il y a deux mots qui disent temps en grec. Il y a le kairos et le chronos. Alors, le chronos, on comprend bien, hein, c'est le chronomètre, c'est l'heure qui tourne. Ça, c'est assez mathématique. Et puis, il y a le kairos. Le kairos, c'est le bon temps, le bon moment, le temps où, voilà, c'est le moment. On nous demande de proclamer cette parole quand le temps est favorable. Or, le temps est favorable déjà dans notre vie personnelle, quand les gens viennent nous demander. J'étais allé voir un ami à Besançon cette semaine, il me demandait, mais il faut qu'on parle un peu de ta foi, tout ça. C'est facile de... Vous voyez, j'ai lu entre-temps le petit livre qui est à l'entrée, que je crois qu'Yvonne avait placé, voilà, sur trois témoignages dans l'Évangile. Bon, j'ai donné ça avec les Évangiles, puis on va en reparler. Ça, c'est facile. Il est demandeur... tous ceux qui nous voient vivre, qui fréquentent l'Église et qui sont en quête de solutions pour leur vie, ben oui, on peut proclamer dans le... C'est le bon temps. Et puis, dans notre société aussi, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais... c'était en 78, distribuer des calendriers et des évangiles dans la cité universitaire. Les jeunes étudiants comme moi, ils étaient gentils, enfin ils me disaient gentiment, en gros, tu n'as rien compris, on est après 68 et tu as un siècle de retard, tu es complètement esbine. Ou ils le pensaient si fort que je l'entendais comme ça, ou ils le disaient franchement. Et puis, dans les années 2000, la société est arrivée au point où voilà, on avait bien vu tout ce à quoi ne répondait pas notre société de consommation, et on a vu les gens beaucoup plus concernés par d'autres valeurs que simplement la voiture que je possède ou la maison que j'habite ou les biens que je peux posséder. Les pouvoirs publics aussi. À la même époque, dans les années 70-80, quand je me rappelle à l'église, on allait demander à la ville d'Aubagne, au journal d'Aubagne, si on pouvait faire annoncer une réunion ouverte à tous. On ne me disait pas non, mais on me disait, mais revenez après-demain. Puis quand je revenais après-demain, on me disait, ah ben non, on a déjà fait la parution hier, dommage. C'était une fin de non-recevoir. Et puis, là aussi, depuis un quart de siècle, les pouvoirs publics ont bien compris aussi que s'intéresser au mouvement religieux, participer, enfin, laisser, encourager ces mouvements à exister, à échanger, c'était aussi un gage de paix civile, un gage de tranquillité pour la ville. Donc la société avait changé, on est dans le kairos par moment. Ce bon temps. Et puis, il y a quand l'occasion n'est pas favorable. Alors ça, c'est moins facile. Hein. Pas favorable d'abord dans notre vie personnelle, peut-être parce qu'on est en difficulté au sein de notre couple, ou peut-être justement qu'on n'a pas quelqu'un ou quelqu'une n'a pas trouvé l'âme sœur. Dans nos familles aussi, c'est pas toujours facile, avec nos enfants, avec nos parents, nos frères et sœurs. Dans notre travail, pas toujours évident de témoigner, de proclamer la parole. On a parfois des fins de non-recevoir. Avec nos amis aussi, quand surviennent des éléments difficiles, des maladies, des décès, des séparations. Les gens ne sont pas forcément très disponibles pour entendre la bonne nouvelle du salut. Au sein de l'Église aussi, parfois nous avons des divergences de vues, des critiques, parfois des jugements. Donc toutes des difficultés que nous pouvons vivre personnellement, et puis des difficultés aussi d'une société qui ne supporte plus la saine doctrine du salut par la grâce. Effectivement, il faut bien le reconnaître, parfois échaudé par tous les témoignages, et les contre-témoignages surtout de l'Église de tous les temps, et quelle que soit sa dénomination. Oui, nous sommes faibles et nous pouvons dévier de l'Évangile parce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas, parce que nous faisons, parce que nous ne faisons pas, parce que nous disons, parce que nous ne disons pas. Difficulté d'une société qui est peut-être moins prête à recevoir l'Évangile. Une société où les humains, dans leur recherche de vérité, peuvent tendre à s'entourer de maîtres spirituels. La parole dit chatouiller l'oreille, hein, le mot grec, c'est un peu une galéjade, hein, on chatouille l'oreille, ça veut dire que je cherche et puis je vais chercher le mot mythos, hein, des mythes, des fables, la traduction c'était les fables, les gens peuvent chercher, se tourner vers tout azimut, hein, des réseaux sociaux, des médias divers et variés qui vont nous présenter des solutions à notre vie, hors de l'Évangile. Et puis difficulté aussi de ceux qui ne veulent pas entendre la proclamation de la bonne nouvelle parce qu'ils ont peur de perdre ce à quoi ils tenaient. Ce à quoi ils tenaient, ça rejoint les tentations de notre Seigneur. On tenait à des biens des corporels, ne pas avoir faim, être bien logé, une sexualité épanouie, je ne sais, tout ça. Et donc, j'ai peur de perdre ça. Et puis, j'ai peur aussi de perdre le pouvoir. Avoir du pouvoir, être considéré par les autres, être un peu sur un piédestal, c'est confortable. Peut-être que je n'ai pas envie de lâcher ça, ce regard favorable. Et puis, les biens matériels, comme si je devais les emporter dans la tombe. Mais Jésus nous rappelle bien que, insensé, ce soir ta vie te sera redemandée. Qu'est-ce que tu feras de tes greniers pleins? Qu'est-ce que tu feras? Et oui, ça nous renvoie donc à ces trois tentations, hein, de puissance, de le corps, les besoins du corps, les besoins de puissance, les besoins de pouvoir. Et je ne veux pas les lâcher. Donc là aussi, on est dans des temps non favorables. dans lesquels quand même l'apôtre Paul demande de continuer à proclamer la parole. Alors, quand l'occasion est favorable, quand l'occasion est défavorable, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi proclamer? Autrement dit, sur quoi j'ai fondé ma motivation pour proclamer la bonne nouvelle du salut? Il me semble que les versets que nous avons lus nous les résument bien. Une première cause, c'est bien parce que Dieu va juger les vivants et les morts, hein, au verset 1, que Timothée est exhorté à proclamer la parole. Nous sommes aussi, nous, appelés à proclamer la parole, parce qu'un jugement va avoir lieu. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'un jugement va avoir lieu. Et puis, une deuxième raison qui est signalée par Paul en disant « par la miséricorde, par la compassion de Dieu », qui apparaît vraiment comme une antidote contre, on pourrait penser, tiens, comme je suis coupable, mais je vais essayer par des efforts de vaincre cette culpabilité. Non, c'est la miséricorde de Dieu qui nous invite à proclamer. C'est sa grâce. C'est pas nos plans de lutte contre nos propres culpabilités. Ça renvoie à la parole de Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, au nom de la miséricorde de Dieu, à offrir vous-même comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, et ce sera là un culte spirituel, le véritable culte que nous lui devons, par sa miséricorde. » Alors on a vu qu'est-ce qu'il fallait proclamer, ce qu'il ne fallait pas proclamer. On a vu le temps où il fallait le proclamer, le temps à temps et à contre-temps. On a vu pourquoi le proclamer et aussi comment proclamer. Attention que notre démarche ne soit pas conduite par des moyens humains. Nous risquons de proclamer un évangile de l'effort personnel, ce qui ne correspond pas à ce que nous avons entendu dans la confession de foi qui a été lue. C'est bien en Dieu que nous allons trouver la force de faire ce que lui-même nous demande. On travaillait l'autre fois avec les jeunes sur Gédéon, dans Juge 7, à qui Dieu va faire passer sa troupe. J'ai relu les comptes, je ne fais pas trop attention aux comptes, mais il y avait 32 000 hommes. 32 000. Et vous rappelez à combien il va réduire la troupe? 300. 300. Et la raison, c'est tout simple, c'est écrit, pour que Israël ne puisse se vanter à ses dépens de dire « c'est ma propre force qui m'a sauvé ». Non, c'est pas notre propre force qui va nous sauver. C'est bien le Seigneur qui intervient. Et donc, pour répondre à cette question de comment proclamer, nous avons besoin, l'apôtre Paul nous le rappelle, de rester sobre. Rester sobre, ça peut vouloir dire, bien sûr, ne pas chercher à s'évader dans des apaisements artificiels, alcool, produits divers, toxiques, sexualité débridée, hyperconsommation, mais aussi hyperconsommation de temps, peut-être passer trop de temps devant nos écrans ou nos petits écrans que nous connaissons bien, rester sobre en toutes choses, supporter la souffrance à laquelle, je ne sais pas vous, mais on n'est pas spécialement préparé à la souffrance. Mais il est certain aussi que nous n'en sommes pas exemptés. Et nous sommes appelés aussi à prendre des coups, et nous le savons. Et avoir en tête l'espérance d'une vie éternelle nous aide aussi à supporter ces souffrances. Mais aussi, n'hésitons pas à demander de l'aide à nos frères et sœurs, croyants, des amis, à un pasteur, à des soignants, à toutes sortes de personnes qui peuvent aussi nous soutenir dans ces moments de faiblesse que représentent les souffrances. Il nous est aussi demandé de faire œuvre d'évangéliste. Donc tenir debout dans l'adversité, ça c'est possible que par une relation qui est toujours plus étroite entre nous et notre Seigneur. Donc développer cette relation dans toutes les circonstances de notre vie. Et puis il nous est rappelé aussi de remplir notre ministère. Le ministère, c'est le terme, c'est diaconat, c'est le service. Avec simplicité, rigueur, par notre attitude, par nos paroles, par nos prises de position. On le sait tous, hein, chaque fois que si on veut tendre la main pour aider quelqu'un, ben on espère que la personne va profiter de cette aide, quelle qu'elle soit, mais on sait très bien aussi qu'on reçoit aussi des bénédictions en donnant. Le Seigneur nous le dit simplement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais c'est quelque chose que l'on peut expérimenter dans l'aide que l'on peut apporter dans notre service, là où Dieu nous a placés. Et ces étapes-là concrétisent cette démarche d'obéissance à ce commandement, hein, donc par le Paul, hein, sobriété, supporter la souffrance et l'utilisation des moyens de la grâce pour faire œuvre d'évangéliste, pour remplir notre ministère, là où le Seigneur nous place. Et avec son esprit, sa grâce, nous avons besoin de lui jour après jour. Dès que nous pensons que ce n'est pas le cas, qu'on peut s'en sortir tout seul, je crois qu'on fait fausse route. En conclusion, oui, Dieu nous appelle tous à proclamer la parole. Pas simplement les théologiens, pas simplement des personnes particulières, chacun de ses enfants. Ici et maintenant, puisque désormais nous savons qu'est-ce qu'il faut proclamer, nous savons dans quel cadre le faire, pourquoi le faire, comment le faire. Oui, ici et maintenant. Et nous pouvons à ce moment-là, répondre favorablement à l'appel de Jésus qu'il adresse à ses disciples, à nous. Et alors nous pourrons dire, avec Paul qui se sait bientôt condamné à mort, il sait que son corps va être offert en libation, il va être sacrifié au nom de sa foi. Nous pourrons dire avec lui, comme il le dit deux versets plus loin à Timothée, des paroles qui figurent sur la tombe de ma grand-mère et dans les Cévennes. Et voilà, ces versets-là m'ont toujours un peu bouleversé. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen.